Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission qui combine technique et agilité pour partager la passion du code. Thierry, tu m'as dit que tu étais allé te former à l'extreme programming aux États-Unis. Je suis très curieux d'en savoir un petit peu plus. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as découvert ce mouvement, comment tu t'es retrouvé aux États-Unis et avec qui tu as appris là-bas?
Oui, alors en fait, c'était vraiment une très très belle aventure. Si tu veux, au départ, je suis développeur. Je développais plutôt dans le monde industriel, tu sais, genre temps réel pour des images de synthèse, des choses comme ça, enfin au niveau professionnel. Et donc, je me suis évidemment, enfin toujours intéressé au dev. J'ai vu, disons, ce qu'on pourrait appeler la vague objet dans les années 90, avec le C++ qui arrivait, puis un peu plus tard Java, et puis également surtout des environnements, on va dire, type Borland, tu vois, Turbo C++, etc., qui, en quelque sorte, popularisaient quoi, tout ça. Et du coup, j'étais très, très branché sur, évidemment, tout ce qui touchait, disons, à la conception objet. Donc, j'étais fan absolu de Grady Bush, de Bob Martin, et qui d'ailleurs, je crois, m'ont aidé à comprendre ce qu'était vraiment l'objet. Et pour répondre à ta question, en fait, c'est au travers justement de mailing list avec UML qui arrivait en 97 que j'ai commencé donc à être branché, disons, sur Ken Beck, Martin Fowler, etc. Et c'est eux qui, donc, sur ces mailing list objet UML, commencer à évoquer cette chose assez extraordinaire là qui était en train de naître, donc qui allait s'appeler l'extreme programming. Et ça m'a tellement, disons, excité, je dirais, que j'ai décidé d'aller me former. Et effectivement, je me suis formé donc dans le cadre d'un séminaire, disons, qui durait une semaine, qui à l'époque était organisé par Object Mentor de Uncle Bob. Et donc j'ai participé à ce qui s'appelait XP Immersion 2. Et donc je me suis retrouvé, nous étions peut-être 50 ou 60. Effectivement, donc c'était en Californie, juste au sud de San Francisco. Et c'est là que, bon, ça a été vraiment, si tu veux, le, comment dire, l'effet waouh, quoi, puisque j'ai été formé par, il y avait toute une équipe, Ken Beck, Bob Martin, Martin Fowler, Brad Cunningham, je crois, qui était passé aussi. J'en oublie certainement, et donc voilà, j'en garde un souvenir absolument extraordinaire. Et c'est là donc que j'ai découvert ce qui allait devenir l'année suivante l'agile, et que j'ai découvert sous forme de ce qu'on appelait d'ailleurs à l'époque une discipline empirique de développement de logiciels.
Et ça, c'était en quelle année ça?
Donc ça, c'était début 2000, c'était en février 2000 que je suis parti.
Ah oui, avant même le manifeste, en fait.
Oui, c'est ça. Et donc, il faut quand même dire, au travers, si tu veux, puisque tu évoques le manifeste, il faut quand même dire que à l'époque, Scrum était inexistant en France, à ma connaissance, en tout cas, on n'entendait absolument pas parler, d'ailleurs, pratiquement, on n'entendait pas parler d'autres choses, quoi, que ce soit Cristal, etc. Et effectivement, donc j'ai vu arriver ce fameux manifeste qui allait changer le cours. On pourrait dire que c'est un manifeste qui allait changer le cours de l'histoire au niveau informatique et peut-être même au-delà aujourd'hui. C'est ça.
Ok, incroyable. Tu as été formé avec Ken Beck, Bob et la bande, quoi.
Martin Fowler, oui, c'est ça. Et Ron Jeffries, mon premier TDD, on va dire, digne de ce nom, je crois que je m'en souviendrai toujours. Je l'ai fait avec Ron Jeffries pas très loin, quoi. Et j'en garde encore d'ailleurs, même la sensation, tu vois, à propos de TDD, puisque c'est vraiment typique, que ce soit d'ailleurs de l'extreme programming ou même aujourd'hui de Safe. Je garde encore, tu vois, la sensation de l'effet barre verte, quoi, tu vois, lorsque le test passe au vert, quoi. Une sensation super agréable et super excitante, quoi.
Écoute, ça prend une direction qui n'était pas prévue, mais je trouve ça vachement intéressant. On peut un petit peu creuser sur ça?
Oui, bien sûr.
Parce que moi, je découvre l'extreme programming en 2002-2003 au travers d'un petit bouquin vert. Alors attends, je l'ai derrière moi, je vais le prendre et je retrouve les auteurs. Donc c'était le bouquin de Jean-Louis Ménard, Laurent Bossavy, Régis Medina, Dominique Williams. Qui moi, c'est à travers ce livre en fait que j'ai découvert l'extreme programming, qui m'a servi de a vraiment servi de fil d'Ariane, quoi, parce que j'étais plutôt à Marseille, puis je voyais tous ces groupes qui faisaient des dojos, et je bavais devant la liste des dojos et les exercices que vous faisiez. Moi, tout ce que j'avais, c'était ce livre, et je l'ai tellement usé, la première version de ce livre, que les pages finissaient par se détacher une par une, tellement je l'avais potassé, travaillé. Donc moi, le TDD, je l'ai plutôt mis en œuvre tout seul, et je me dis, waouh, ça me donne des frissons ce que tu me racontes là. Être avec les pères fondateurs du mouvement, ça devait être quelque chose. Et du coup, donc toi, tu te formes, 2001, le manifeste, et toi, tu rentres en France, et comment tu vois les choses évoluer derrière, du coup?
Alors, si tu veux, oui, je rentre en France. Enfin, je pense que je ne sais pas si tu souhaites y revenir, mais je crois que c'est vraiment important quand même de comprendre vraiment ce qu'est l'extreme programming, parce qu'aujourd'hui, ce que l'on, comment dire, ce que l'on garde, quand je dis on, globalement, dans la communauté agile, ce que l'on garde d'image, disons, d'XP, c'est essentiellement, justement, les pratiques de développeurs, type intégration continue, etc. Alors qu'en réalité, l'extreme programming est beaucoup, beaucoup plus riche que ça, que ce soit la première version, ce qu'on appelait XPE2E, donc Extreme Programming Explained, première édition ou deuxième édition. Ce sont des choses très, très riches. Bon, pour répondre à ta question, ensuite, quand je suis rentré, enfin, j'ai fait plusieurs voyages, j'ai bossé très très peu, mais un petit peu avec Object Mentor, puisque mes premières formations XP, mes premiers accompagnements, justement, en fin 2000, c'était avec du matériel d'Object Mentor, d'ailleurs. Au passage, avec quelques potes sur Toulouse, nous avions créé l'association Extreme Programming France. Donc, ça devait être en fin d'été ou automne 2000. Cette association XP France, qui allait devenir d'ailleurs Agile France en 2008, autant que je me souvienne. Alors, ce qui, à mon avis, en tout cas tel que je l'ai vécu, ce qui s'est passé dans ces premières années, c'est que, et étant donné que l'extreme programming était, disons, quasiment révolutionnaire, enfin extraordinaire au niveau développement, puisque le soft devenait, on va dire, une sorte de matériau très plastique, très malléable, avec lequel on pouvait s'amuser, justement, au travers du refactoring, du TDD, etc. XP a été ensuite porté plutôt par des développeurs, et on a Je dis on parce que bon, je pense que j'en faisais partie aussi. On a plutôt mis l'accent là-dessus. Les autres aspects de l'extreme programming, puisque dans l'extreme programming, on retrouve les rôles de manager, de coach aussi, etc. Mais enfin, surtout de manager et évidemment de client, ce qui correspond gros.
De testeurs aussi.
Voilà, de testeurs, de trackers, etc. Mais si tu veux, les trois rôles principaux qu'on retrouve dans un bouquin qui s'appelle Extreme Programming Install, je crois, quelque chose comme ça, qui date de 2001, c'était vraiment le client avec une pratique qu'on appelait client sur site, et qui était là justement pour piloter en optimisant la valeur. Ces choses-là, au travers du planning game, hein, puisque c'était donc cette pratique de planning game, qui intégrait d'ailleurs l'aspect qualité qu'on pourrait appeler directement dette technique dans la planification. Donc ces choses-là, donc qui existaient, qui existent toujours finalement d'ailleurs dans l'extreme programming, qu'on retrouve justement un petit peu dans Save, c'est pour ça que Save m'intéresse beaucoup. Ces choses-là, donc petit à petit, et en particulier à partir de 2006, avec l'arrivée en France de Scrum et ce qu'on va appeler fin des années 2000, la Scrum Mania, tout cela va se diluer un petit peu dans la communauté, à mon sens, au profit de ces rôles, donc de Product Owner et de Scrum Master. Voilà, et puis pour continuer l'histoire, bon, au passage, il y a Kanban, Lean Software Développement qui apparaît aussi, mais encore une fois, l'extreme programming, c'est vraiment déjà du Lean Software très très abouti, puisque par exemple, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans Safe, mais justement, on évoquait le TDD. Ben le TDD, c'est vraiment une mise en œuvre du principe de qualité intrinsèque du Lean, qui est justement adapté au logiciel. Et je crois que ça aurait été vraiment l'un des, comment dire, l'une des évolu enfin des révolutions, même je dirais, d'XP tout à fait extraordinaire, de pouvoir, comment dire, donner à la communauté des développeurs ces outils de qualité intrinsèque. Juste une parenthèse, je me souviens quand je suis rentré en France et que je présentais donc en 2000-2001 avec des premières conférences, des premiers ateliers, etc. Lorsque je présentais TDD, je me souviens que j'avais des développeurs qui me disaient juste, mais c'est pas possible d'écrire un test avant d'avoir développé le code. Donc tu vois, on revient de loin quand même. Bon.
Oui, je te rassure, je l'entends toujours ça,
Ah
donc
ok, bon.
il y a encore beaucoup de travail.
Ah, ok, voilà, donc it's a long way. Voilà, et donc. Et donc pour continuer l'histoire, eh bien, je crois que bon, on peut quand même remercier Scrum sur l'effet au travers du business model, au travers de beaucoup de choses sur, on va dire, la généralisation, la vulgarisation de l'agile, bien qu'il faille, je crois qu'il faut vraiment distinguer Scrum et Agile. Et ce qui fait que aujourd'hui, en tout cas depuis quelques années, eh ben, on voit apparaître un besoin en fait chez les utilisateurs, chez les clients, disons, chez les utilisateurs de l'agile, un besoin d'agile à l'échelle. Et c'est là que vont apparaître des cadres donc comme LESS il y a une dizaine d'années. Mais LESS c'est un petit peu particulier parce que quand même au départ LESS c'est plutôt adapté à de gros produits, alors que des cadres comme SAFe vont bien au-delà puisqu'ils sont adaptés plutôt à des portfolios de produits. Et donc aujourd'hui la question qui se pose à mon avis dans la communauté agile c'est justement cette question qui est ben qu'est-ce qu'on fait face à cette demande qui émerge et qui est en quelque sorte la rançon du succès hein, finalement de l'agile qui est cette demande de cadre ou en tout cas de réponse en termes d'agile à l'échelle. Si tu me permets, je voudrais juste dire quelque chose qui me paraît important quand même pour comprendre l'extreme programming et cette révolution, disons, que fut l'extreme programming. Je pense que, et d'ailleurs Ken Beck s'en cachait pas, hein, il disait qu'il s'était inspiré de méthodes issues de l'industrie, donc c'est vraiment du lean software au sens pilotage par la valeur, au sens donc qualité intrinsèque, au sens éviter les gaspillages. Quand on disait dans l'extreme programming, on fait attention aux docs, etc. C'était pas juste pour dire on s'en fout des docs. C'était pour dire bah, tout simplement ce qui apporte de la valeur dans la fabrication du logiciel. Eh ben, c'est une activité qui s'appelle la programmation, d'où le nom d'ailleurs extreme programming. Hein, c'est un nom encore une fois très très lean et d'où cette vigilance, disons, pour toutes ces activités qui n'apportent pas de valeur ajoutée. Et puis un autre point aussi pour comprendre quand même au niveau développement ce qui s'est passé la fin des années 90, c'était justement, j'évoquais tout à l'heure des environnements type, à l'époque c'était, je me souviens de Turbo C++, des environnements comme ça, c'est-à-dire à la fois des bécanes et à la fois des environnements de dev qui nous permettaient ben, voilà, de faire des compiles en quelques secondes, etc. Et XP est arrivé à ce moment-là. Je dis ça parce que, ben, pour une raison simple, moi, mes premiers programmes, donc ça date pas d'hier, hein, mais mes tout premiers programmes, fin des années 70, début des années 80, c'était en carte perforée. Alors, je sais pas si tu as connu les cartes perforées.
Non, non, j'ai
Et
pas connu ça,
bon,
moi.
voilà, donc c'était une autre époque où, si tu veux, bon, grosso modo, par rapport à ce qui nous intéresse, ce qu'il faut voir, c'était que le cycle de développement, de compilation, si tu veux, et d'exécution pour vérifier un programme, etc., c'était facilement de plusieurs heures, quoi. Tu vois,
Ah, tu m'étonnes, ouais.
voilà, on avait nos cartes perforées qu'on fabriquait grâce à des sortes de machines à écrire, disons-le comme ça. Donc le programme, c'était un jeu de 100, 200, 300 cartes perforées. Ces cartes, on les mettait dans un bac. Donc un opérateur, ben, quand il pouvait récupérer ce bac, et puis donc si tout allait bien, 1 heure, 2 heures, voire le lendemain, on avait le listing de résultats avec éventuellement des erreurs de compile, avec les résultats de l'exécution, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que il faut vraiment mesurer, à mon humble avis, en fait, ces pratiques, disons, type intégration continue, test driven, développement, refactoring, à l'aune, ou en tout cas en regard de ces capacités de développement que l'on a depuis 2 ou 3 décennies, quoi. Qui aurait pas été possible avant, en fait, TDD. Je vois pas comment on aurait pu faire du TDD avec des cartes perforées à l'époque.
Ouais, c'est super intéressant. C'est l'évolution technologique qui a permis, en fait, l'évolution des pratiques, en fait, qui étaient autour.
Voilà, c'est exactement ça. Et je pense qu'il y a vraiment une question à se poser. Tout à l'heure, tu disais, ben, encore aujourd'hui, il y a des développeurs, en tout cas des personnes qui se posent la question de la possibilité de ce qu'on appelle finalement, de façon générale, les pratiques de type test first programming. Je pense qu'il faut vraiment mesurer cette évolution et du coup se poser la question, est-ce que aujourd'hui, on ne serait pas en train... Pas forcément au niveau vraiment purement dev, parce que bon, en tant que dev, évidemment, on profite des environnements, mais plus généralement au niveau de ce qu'on pourrait appeler un cadre méthodo, hein, tout simplement. Est-ce qu'on n'est quand même pas encore avec on va dire, ces survivances, ces reliquats de cycle en V, ce qui donne du Vrum, etc. Est-ce qu'on n'est pas encore aujourd'hui, en 2018, en train de développer comme on le développait dans les années 70, sachant que, effectivement, les technos ont vraiment évolué, quoi.
C'est vachement intéressant ce que tu dis parce que tu donnes de la profondeur à des espèces d'acquis. Moi, je me souviens, surtout dans les années 2000, on pouvait même pas, enfin, remettre en cause le cycle en V. C'était de l'ordre du blasphème, tu vois. C'était blasphématoire.
Ah ben bien sûr, tout à fait. Enfin, je me
Et on a hérité de ça alors que la question que tu poses est tout à fait légitime, qui est de dire, mais les gars, est-ce qu'on est toujours obligé de développer de la même manière, quoi?
C'est ça, c'est ça. Alors, encore une fois, à mon humble avis, je pense qu'au niveau vraiment purement dev au quotidien, bon, ça va, on a quand même compris l'intérêt, donc on fait plus trop gaffe au point-virgule parce qu'on sait très bien qu'on aura 3 secondes après ou 2 secondes après une marque dans la marche qui nous l'indique. Donc, je pense que ça se pose vraiment au niveau plus global de, on va dire, la perception, la compréhension de façon générale que globalement une organisation, un client, etc., peut avoir de ce qu'est un logiciel. Juste, si tu veux, pour te donner un exemple, enfin, que j'utilise beaucoup avec mes clients, ou en tout cas pour essayer de faire comprendre. Il se trouve qu'à l'époque, j'étais aussi un petit peu, disons, photographe amateur. Et pour être honnête d'ailleurs, justement, un peu au même moment, d'ailleurs, là, au tournant 2000, apparaissait donc la photo numérique. Et aujourd'hui, on n'a plus quasiment que de la photo numérique. Et je dis ça parce qu'il se trouve que personnellement, bon, en réalité, j'ai eu un petit peu de mal à passer à la photo numérique. Mais c'est vraiment le même, je pense, le même rapport. C'est-à-dire que un soft est toujours un soft, comme une photo est toujours une photo. C'est-à-dire, on va retrouver les questions de cadrage, de luminosité, de contraste, etc. Simplement, grâce au numérique aujourd'hui, on démultiplie les possibilités. Enfin, je me souviens à l'époque, donc ça c'était fin des années 70, aussi 80, quand je partais avec des, j'étais dans des clubs, enfin quand on partait faire comme ça des sorties photos, bon, même si on prenait par exemple 10 pellicules, des 24-36, bon, 10 pellicules, ça nous donnait grosso modo 400 photos. Donc 400 photos, c'est énorme, mais tu vois, dans la journée, on pouvait shooter 400 photos. Bon, aujourd'hui, avec le moindre appareil ou même un téléphone portable, ça se chiffre en milliers, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un rapport on va dire à l'objet, à ce que l'on manipule, qui est modifié. Ça, et tant mieux. Enfin, tant mieux. Ça s'appelle le progrès et c'est super. Ça démultiplie les possibilités.
Eh bien, écoute, je te propose que ce soit le mot de la fin. Je te remercie Thierry pour ce flashback et ce retour sur les racines de l'extreme programming. Pour en savoir plus sur ce que tu fais et sur ton travail, on va où?
En voilà une question. Alors, aujourd'hui, j'ai un site web. Bon, je dois dire que autant pendant des années, j'ai vraiment, je crois qu'elle m'était plutôt prolixe là au niveau blog et tout. Aujourd'hui, j'ai un site qui s'appelle toltecagile.com, puisque bon, ça pourrait encore être une autre discussion, mais à la même époque, je découvrais la voie Toltec et donc voilà. Donc, je publie quelques billets aujourd'hui sur toltecagile.com.
Eh bien, je te remercie Thierry pour ta participation et cet échange. Quant à toi, cher auditeur, si tu as apprécié cet épisode, je t'invite à revenir dès demain, puisque Thierry nous reparle, et cette fois d'un autre sujet, il nous parle de Safe, cette espèce d'objet qui fait pas mal débat dans la communauté, et il va nous expliquer ce que c'est, à quoi ça sert, pourquoi le Safe bashing, et on pourra y voir un petit peu plus clair. Merci à toi et bonne journée, à demain.